du paysage, des perspectives paysagères. Tu peux mettre la carte sur le paysage. Voilà, ça c'est la carte sur le paysage. Donc, effectivement, il y a les cœurs villageois avec un certain nombre de façades, ce qu'on appelle des façades patrimoniales, des façades historiques à conserver, qui sont inscrites dans le stock, qui sont inscrites dans le PLU. Un certain nombre de points de vue remarquables qui sont aussi répertoriés assez précisément. Je crois qu'on a 35. Les coupures à l'urbanisation, le fait d'avoir entre chaque village, encore aujourd'hui, vous avez la chance que ça existe encore dans votre vallée, parce que dans certains endroits, l'urbanisation parvient par se rejoindre, et du coup, on traverse les villages sur une continuité d'urbanisation parfois assez longue, alors que dans la vallée de la Dolère, dans le vallon du Sousbar, on a encore bien cette séparation par l'agriculture, par les espaces forestiers, entre l'urbanisation qui marque les différentes entrées et sorties des villages. Donc ça, c'est un des atouts sur le plan paysager. Et donc, ces coupures vertes d'urbanisation, elles sont à maintenir. Je crois qu'il y en a 24 en tout. Elles sont répertoriées également sur le territoire. Après, bah, effectivement, les questions des ouvertures. Alors là, des ouvertures paysagères, c'est-à-dire du défrichement pour dégager finalement les villages de la proximité directe de la forêt. Ça, c'est la question des transitions paysagères. Parfois, les espaces urbanisés sont directement en contact, soit avec la forêt, soit avec l'agriculture, sans qu'il y ait d'espace intermédiaire qui soit traité sur le plan paysager. Ça peut être des haies, ça peut être des lisières. Ça, effectivement, on constate de façon assez généralisée, mais c'est pas uniquement sur la vallée de la Dolère, c'est en général en France, que ces transitions paysagères sont assez malmenées. Historiquement, les villages avaient leur ceinture de vergers. Ces vergers tendent aussi à disparaître. Il y a aussi la question de savoir est-ce que les vergers sont encore utilisés, sont encore entretenus, est-ce qu'on en fait encore quelque chose. Mais en tout cas, ça constituait une transition paysagère intéressante entre l'urbanisation et la culture de plaine.
Toutes les communes créent des vergers écoles, des vergers communaux, alors il faut savoir.
Absolument.
Pourquoi ?
Pourquoi,
oui. Pourquoi d'un côté il y a un abandon et pourquoi les communes le font ? C'est des subventions.
Parce qu'en Alsace, on peut en redistiller. C'est pour ça.
Vous avez vu pédagogique déjà.
Oui. En Alsace, on peut en redistiller.
Pour nos enfants, comme je le disais en introduction, il faut aussi qu'on laisse à nos enfants l'envie de travailler nos paysages, l'envie de savoir ce que c'est un arbre fruitier, ce que ça peut apporter. Et ces vergers que vous voyez à droite et à gauche sont surtout dans un but pédagogique. Dans un premier temps, bien sûr aussi, l'aspect environnemental, mais la transmission. On a la chance d'avoir sur nos territoires de belles associations d'arboriculteurs, d'apiculteurs. Mmh. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir ces gens-là. Et bien, ces gens-là ont envie de transmettre, ont envie de passer à l'autre. Et pour répondre à votre question, ces vergers sont essentiellement à but pédagogique pour que justement cet amour de l'environnement puisse être transmis. C'est essentiellement dans ce but.
J'espère qu'ils servent, moi j'ai jamais vu personne dedans. Okay. Que ce soit dans n'importe quel village.
C'est pas exploité, c'est
exploité. Ah si, ils sont exploités. Ouais. Si. Même le verger conservatoire du Grand Bar là-haut, vous invite à monter, qu'il est entretenu, qu'il est. Ça fonctionne.
Qu'est-ce qui est important autour des villages, c'est d'éviter la confrontation directe entre l'urbanisation récente, contemporaine, et par exemple les cultures, les grandes cultures. Et préserver ce qu'on appelle les paysages ordinaires de ceinture villageoise, c'est-à-dire les prairies, des vergers, qui étaient historiquement autour des villages, pour faire la transition justement entre l'urbanisation et la grande culture agricole.
Aujourd'hui, au lieu de planter du thuya, au lieu de planter des choses comme ça, bah, plantons des fruitiers. Même dans des aménagements.
Je suis d'accord. Monsieur disait qu'il y a énormément de vergers qui étaient abandonnés. Alors pourquoi pas les entretenir aussi
Ça
peut être pédagogique. Mais moi, j'ai trouvé bizarre que tout d'un coup, dans toutes les communes, il y a un verger qui se crée. Je me dis, tiens, il doit y avoir une subvention de l'Europe qui a dû tomber.
Non, pas du tout. Ce sont des choix.
Ils payent plus.
Non, c'est pas un problème de suivant.
Ouais. C'est vrai que du coup, ça pourrait être débouché vers peut-être un partenariat avec des gens qui possèdent des vergers dont ils sont plus capables de s'occuper.
Oui, par exemple.
Ou qui n'ont plus envie de s'occuper pour pour qu'il y ait un échange, du coup, comme ça.
Mais c'est un peu c'est la même chose avec des jardins familiaux ou des jardins, des potagers. Aujourd'hui, on a par exemple sur Mazou, je reviens toujours à Mazou, parce que je connais Mazou, des gens qui viennent s'annoncer en mairie et qui sont demandeurs d'un potager, d'un jardin, même s'ils, même s'ils sont en appartement. Donc là aussi, et puis on a des échanges qui se font entre des personnes plus âgées et qui invitent des jeunes ménages. Et on en a plusieurs qui fonctionnent comme ça.
Dans ce cadre-là, justement, c'est bien que vous en parliez. Est-ce qu'il n'y aurait pas de possibilité au niveau des communes de créer des jardins familiaux, parce qu'il n'y en a pas partout et loin de là, et que de réserver justement des zones pour...
C'est quelque chose dont on peut parler.
Ouais,
je sais que les jardins familiaux, ça fonctionne bien.
Oui, c'est bien.
Et je pense qu'il y a même de belles choses à faire.
Absolument.
Dans ce sens-là. Après, il faut mettre des terrains à disposition. Il faut une volonté.
J'allais dire qu'il faut une volonté politique.
Non, pardon.
Je dis, il faut une volonté politique.
Voilà.
Ouais. Vous êtes bien placé, je crois.
Oui, non. Venez voir à Mazou, on a des
jardins. Je ne suis pas souvent chez vous, vous savez bien.
Après, voilà, chacun dans la mesure de ses moyens. Je
crois. Oui, oui.
Après, dans des communes de moines, le jardin familial, il existe partout dans les petites communes. Petites, j'aime pas, hein, je veux dire. Dans les communes, dans toutes les communes, les gens ont déjà leur potager. Il n'y a pas de collectif. Où les gens ont besoin d'aller vers le maire pour lui demander un jardin. Les jardins existent, les vergers sont là.
Oui, mais tout le monde n'a pas de jardin.
C'est beaucoup plus présent dans une ville comme Mazou, forcément.
Oui, ceux qui sont plus
demandez-le au voisin, est-ce qu'il ne le fait plus? Ça se
passe chez nous comme ça. Quand il ne le fait plus, il le bétonne.
Moi, mon voisin, il m'a donné un jeune loup. C'est un jeune loup qui cultive le jardin du voisin.
Je sais, moi, j'ai des habitants.
Il suffit de parler, il suffit de discuter.
Monsieur, je sais, on a tout le monde. Oui, il parle pour des tas de gens qui nous parlent, qui sont en location.
Plus sérieusement, dans la vallée de la Dolère, j'ai essayé de résumer. Il y a tellement de choses, tellement de belles choses dans la vallée de Dolère, il y en a tout. On est irrigué par une rivière exceptionnelle, surtout après l'Aube. Hein. À l'amont, c'est plutôt une rivière qui est calée, parce que morphologiquement, c'est une rivière qui est une rivière de montagne, et à partir de l'Aube, on a une rivière qui est sur fond mobile, qui développe des habitats, des peuplements de poissons, des types de... C'est un type de cours d'eau qui est exceptionnel au niveau de la Tasse, au niveau de la France, même au niveau européen. Et puis vous avez, je vais essayer de structurer mon petit exposé. Dans la partie basse, vous avez les villages de l'Aube à Guévenheim qui sont situés sur les hautes terrasses. Et sur ces hautes terrasses, il y a la grande forêt de l'Eichwald, là, qui est une forêt très intéressante. On a des rivières aussi méandreuses, notamment dans le Clébar. Et on a des espaces agricoles aussi qui sont fort intérêts, qu'on ne voit pas d'arbres parce qu'ils sont cachés. Moi-même, ça fait 20 ans que je traîne dans cette vallée. Et grâce au PLUI, merci Monsieur le Président, j'ai pu découvrir des choses assez exceptionnelles en termes de qualité prévisible. Je salue les agriculteurs qui sont les constructeurs de cette biodiversité. Dans le vallon du Soulzbach, qui est un vallon à part parce qu'on est dans le bassin versant de la Larve. Et donc on est sur des terrains différents, on est sur des communautés animales et végétales qui sont très différentes. Là-bas, il y a des choses encore assez exceptionnelles aussi. On parlait à Christophe que j'ai vu sur le terrain au niveau des prairies, là, les prairies sur Mordivillers qui sont aussi au niveau exceptionnel hein, en termes de diversité floristique avec des plantes remarquables. Moi j'anime aussi la maison de la géologie à Sentheim et on fait des sorties sur ces sites comme ça. On voit des choses très belles. On a donc ce vallon aussi. Alors c'est des secteurs qui ne sont pas forcément très connus. Hein. Dans le travail que je vais faire, je vais bien mettre en évidence ces secteurs. Et puis plus on remonte dans la vallée, on va rentrer dans un contexte de moyenne montagne avec Mazou dans son écrin de vergers. Vous avez parlé des vergers. Il y a un capital de vergers, de pré-vergers qui est exceptionnel sur Mazou. Avec des petits vallons de part et d'autre. Et puis les secteurs plus connus qui sont là, vous voyez les zonages Natura 2000, qui font souvent hérisser les élus et les gens, mais qu'il faut peut-être voir aussi le verre plein et plutôt que le verre vide en termes de Natura 2000, parce que ça peut ouvrir des opportunités, les élus le savent. Il y a des îlots de sénescence qui sont proposés, et ce n'est pas seulement la nature contre la production, ça aide aussi les communes à tirer parti de voisins, par exemple, qui sont peu exploitables. Donc dans cette partie haute, bon, on a les Fuchsfelsen, le Nabaswald avec un réserve naturel régional qui est d'intérêt européen. On a tout le ballon d'Alsace avec son cirque glaciaire. On va pas en faire. Vous savez tous que c'est des secteurs, c'est pas pour rien qu'il y a des fermes auberges là-bas, c'est pas pour rien que ça a une valeur économique, c'est pas pour rien que les gens sont intéressés d'aller visiter ces secteurs à pied, de monter dans ces fermes auberges qui sont souvent accessibles à pied. Et puis toute cette crête jusqu'au Dudel, hein, qui est remarquable. Les dynamiques négatives, parce qu'on ne peut pas dire les choses qui ne vont pas bien, il faut essayer de les améliorer à un moment donné, c'est quand même dans la partie basse, l'urbanisation, c'est le contrepoint de ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a des communes qui sont en rouge, orange, elles ont envie d'urbaniser. Donc si elles urbanisent, elles vont menacer des espaces agricoles, mais aussi des espaces naturels, aussi des espaces qui vont servir de tampon, de rétention d'eau. Vous savez très bien que le président, vous avez travaillé sur le SAGE. Il y a eu un gros travail fait par le département au niveau des zones humides. C'est vrai que ça sera un point important de maintenir ces zones humides qui constituent des zones de rétention, des zones d'épuration de l'eau gratuites, des petites stations d'épuration. Vous savez qu'on construit pour épurer l'eau. Bien, il y a des zones humides qui font le boulot gratos. Donc si on urbanise ces secteurs-là, on va perdre ce service écologique gratuit. Donc les dynamiques négatives, il y en a dans les secteurs où il y a de l'urbanisation qui s'abouge, donc il faudra arbitrer un moment donné. Arbitrer, c'est-à-dire choisir. Hein. Et puis il y a l'agriculture de temps en temps qui a tendance à s'intensifier. Moi, ce qui me fait peur un peu, c'est ces prairies quasi exceptionnelles avec beaucoup de plantes protégées qu'on trouve. Comment est-ce qu'elles vont pouvoir se maintenir dans la durée? Même si ce n'est pas du boulot du PLUI, mais c'est à moi de dire à un moment donné, voilà, vous êtes sur un territoire, comme vous disiez, hein, c'est un patrimoine, c'est des choses exceptionnelles. Hein. Vous passez pour tout le massif des Vosges, hein. Moi je me balade dans tout le Grand Est, des vallées comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Vous savez tous, mais je vous redis quand même, au niveau environnemental, au niveau de la biodiversité, on ne sait pas tout aujourd'hui. On a zoné des grandes choses, parfois des secteurs discutables dans la construction de la Natura 2000, il y a des choses qui n'étaient pas parfaites, ça je le sais très bien. Et donc, Basse-Vallée, ici, des dynamiques agricoles qui m'inquiètent aussi en termes de coupes, de boisements qui sont dans les faces ouvertes, qui sont des pages à pollen, qui sont des structures relais, vous avez les oiseaux, les insectes, plusieurs groupes, même les amphibiens qui fonctionnent dans ces milieux. Et puis, ça c'est un, je vais plus parler au niveau du vœu, mais c'est pas pour interpeller monsieur là-bas au niveau de la forêt, c'est qu'au niveau forestier, on a un déficit en termes de qualité, en termes de biodiversité, grosso modo, à travers les plantations. Ah, il faut le dire. Hein.
Ça manque pas de sangliers, hein, par contre.
On a des peuplements forestiers qui sont relativement appauvris sur un bac. Je dis pas ça parce que vous êtes là, monsieur. Sur un certain nombre de communes. Il y a des communes qui ont plus de chance que Seven que d'autres. Hein. Mais voilà un peu le topo. Hein, alors, effectivement, il y a des flèches. Les flèches sont des. Proviennent du SRCE, le fameux schéma régional écologique, de cohérence écologique régionale. Je ne sais pas si c'est dans le bon sens, peu importe. C'est pour mettre en connexion les réservoirs de biodiversité. L'idée, c'était de dire, l'idée sous-jacente à ces trucs-là, c'est de dire, ben, si vous faites des endroits comme en rouge, là, la réserve naturelle régionale, pardon, des volcans, si elle est isolée, cette zone, dans un espace où les espèces peuvent plus se déplacer, à terme, elle va dépérir. Donc ces zones-là, on va les retravailler, parce qu'il y a des choses... On a parlé de Sentai, je vais vous dire un truc sur Sentai. Sur Sentai, il y a des... Il y a personne de Sentai. Donc sur Sentai, il y a des zones agricoles, des zones humides quasi exceptionnelles. Donc je pense qu'ils ont des difficultés à s'étendre. Une commune où il y a une très forte richesse, cette richesse, elle n'est pas répertoriée ici. C'est l'intérêt un peu du PLUI de remettre des zooms sur ces espaces-là, On a parlé de la nature ordinaire tout à l'heure, mais il y a différents degrés de nature.
On peut peut-être dire que dans les pièces du PLU, il y a un état initial de l'environnement, c'est un diagnostic, un inventaire, qui est fait à l'échelle du territoire, puisque le PLU fait l'objet d'une évaluation environnementale. C'est-à-dire qu'à partir de cet état initial, le projet d'urbanisation, le projet qui va impacter ces espaces-là, va être évalué. Par climat, en l'occurrence, pour mesurer.
On est un petit peu le garde-fou de l'élaboration du terme environnemental, pas seulement sur la biodiversité.
Et qui c'est qui paye tout ça, messieurs ? Qui c'est qui paye ? Qui c'est qui paye tout ça ?
Nous, on n'a pas été payé.
Ah !
Mais on a été payé pour partie, mais pas.
Oui. OK.
Tu vas vous poser une question.
Donc, Notre-Dame-des-Landes, ça va pas se faire si on vous écoute là ce soir. Juste pour vous imaginer la chose, après tant qu'il y a un grand projet ici, tout ce que vous dites là, vous verrez, ça passera. Une autoroute peut passer, elle passera. C'est ça, c'est toujours le petit qui doit faire des sacrifices, et quand quelqu'un dirige, décide d'en haut, ça passe. Donc là, tout ça, c'est pour m'endormir ce soir. On est agriculteur depuis le 11, ce qu'il faut préserver, on a appris ça étant gamin, ce qu'il faut préserver, ce qu'il ne faut pas abattre, ce qu'il ne faut pas écraser, ce qu'il faut. On a appris ça étant jeune. Hein. À quoi ça sert ? À quoi sert une taupe ? À quoi ça sert ceci ? On l'a appris. Quoi.
Je
ne
vous ai pas parlé de tout.
Non, mais je veux dire par là, l'environnement, nous, depuis toujours, on la préserve. C'est pour ça que les paysages sont ouverts. Hein. Sinon, ça serait des ronces jusqu'à l'entrée de Mazereau, là.
Vous parliez de la qualité de l'eau et des choses comme ça. Sur la Haute-Vallée, il n'y a pas de station d'épuration à l'heure actuelle, et comment penser que les prairies sont capables d'absorber toutes
les prairies
Oui, mais enfin, vous disiez que c'était filtré par les prairies.
Non, ça va dans la Dolère.
Oui, ça va dans la Dolère. Donc les eaux de la Dolère, elles sont polluées ou pas?
Non, mais là, on.
Et c'est dans votre pays, lui,
C'est vrai que je n'étais peut-être pas là quand j'ai introduit la réunion.
Oui.
Et quand je parlais du côté sur le plan environnemental, il est vrai que le problème de l'assainissement existe dans le haut de la vallée. Il y a un dispositif qui est... Aujourd'hui, c'est de la compétence de la communauté de communes. L'assainissement autonome est de la compétence de la communauté de communes. Donc, tout ce qui concerne le haut de la vallée est maintenant dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle le SPANC. Et aujourd'hui, donc, il y a eu un état des lieux qui a été fait, piloté par la Comcom, et puis ça tombe bien, j'ai les deux responsables là de l'opération qui sont là, ils peuvent peut-être mieux vous en parler que moi. Donc un diagnostic a été fait sur toutes les installations du haut de la vallée, hein, puisque le seul village qui s'était raccordé à la station de Mazereau, c'était Niederbruck. Hein, et puis bon, le reste, non, c'était un choix à l'époque, hein, qui a été fait comme ça par les élus. Et donc aujourd'hui, il va falloir rentrer dans une phase où les habitants vont devoir passer par une installation autonome. Donc chaque habitation va devoir assumer son assainissement. C'est vrai qu'il y a des endroits aujourd'hui qui répondent déjà à certaines normes, ce qui est bien, et puis d'autres qui ne le sont pas du tout. Et donc là, la réglementation va faire en sorte que tout ça va rentrer dans l'ordre, parce que notre belle Dolère ne pourra pas, aujourd'hui, on entend la Dolère, elle a un pouvoir auto-assainissant, auto-écœur. Ça peut aller jusqu'à un moment. On a vraiment la chance, et j'allais presque profiter pour parler de cette Dolère et de cette ressource en eau, c'est vraiment l'eau noire de notre vallée. On sous-estime aujourd'hui cette valeur d'eau, cette Dolère déjà, parce que c'est une des plus belles rivières et une des...
Le pouvoir auto-épurateur de la rivière, il est lié à la naturalité de la rivière, au fait qu'elle a un cours tellement changeant.
Mais il ne pourra pas durer éternellement.
Si on excède sa capacité...
Il faut pas mettre tout le monde dans le même sac.
On en est où, là ?
Des épurations individuelles et on laisse
vider
les fosses tous les ans
et
ça va pas dans la rivière.
Mais qu'est-ce que je dis ? Il y a des endroits où ça va bien, il y en a d'autres où ça va bien.
Oui, mais même si on n'est pas en norme, on a quand même un système d'épuration individuelle.
Oui.
ou on laisse vider, donc ça ne va pas dans la rivière. Même si le gars il est passé, il a dit, oh, on n'est pas au nord, mais il y en a beaucoup comme ça dans le village, cependant, qui ont des fosses, et où ça ne va pas du tout dans la rivière.
Oui, mais si ça trouve, on n'est quand même pas dans les normes d'aujourd'hui.
Parce que comme rien n'est passé.
Vous savez, je vais quand même vous dire quelque chose, rentrer dans le débat.
Non,
mais il y a des communes où on paye le mètre cube d'eau. Il y en a d'autres où on paye 1,20€, 1,30€, mais le service n'est pas du tout.
Non, c'est juste pour dire que tout le monde ne va pas systématiquement.
Mais je n'ai pas dit ça. J'ai bien dit qu'il y a des endroits où ça fonctionne bien. Donc je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais là, de toute façon, les gens qui ne sont pas normes vont se faire rattraper par la patrouille. C'est tout ce que je vous dis. Moi, quand je parle comme ça, c'est pour notre rivière. C'est pour notre...
Non,
quand vous tournez le robinet, quand vous tournez votre robinet chez vous à la maison et que vous avez une belle, une bonne eau potable, sachez qu'il y a tout un travail derrière.
Oui, non, mais sachez tout à fait d'accord, je sais très bien. Oui.
Et ça fait partie de tout un ensemble.
Donc
moi, voilà, j'essaie juste de partager ce que mon expérience d'élu maintenant depuis... c'est pareil quand l'ensemble de nos communes privilégie la régie pour gérer notre eau potable. Vous croyez que si on avait la Lyonnaise des eaux ou ces gens-là qui gèrent notre vallée, on en serait où? Donc voilà, je crois qu'il y a là vraiment quelque chose qui est depuis des décennies, parce que nos anciens ont travaillé là-dessus. Et aujourd'hui, c'est un devoir pour nous de continuer ce travail-là. Et bien la ressource en eau potable qui vient de nos montagnes, hein, et qui, il ne faut pas oublier non plus qu'on a une agglomération mulhousienne de 250 à 300 000 habitants qui cherchent l'eau sur la Dolère. Hein? Donc là aussi, je dis un jour à M. Bocquel, vous pourriez peut-être participer un peu aux investissements qu'on fait derrière.
Ça,
hein?
Je suis tout à fait
d'accord. Donc voilà, moi je veux juste que tout le monde soit bien conscient. Et quand je parlais d'environnement au début, ben c'est vraiment c'est une richesse pour nous aujourd'hui de pouvoir bénéficier de ce qu'on a. Faisons-y attention, faisons-y bien attention.
On n'aura pas de station d'épuration alors.
Il y aura peut-être des mini-stations d'épuration.
Oui.
Parce que dans la vallée, vous avez des secteurs où une maison se retrouve entre la route devant, la rivière derrière ou inversement. Il faudra bien trouver des solutions. Il faudra peut-être rassembler un pâté de maison et l'emmener dans une mini-station. Voilà. On a des spécialistes pour ça. Je ne suis pas assez technicien pour vous le dire. Mais il y aura peut-être des mini-installations pour répondre à ces problématiques. Il faudra bien trouver des solutions.
On va encore prendre 2-3 questions. Nous, on a terminé. Et puis, je crois qu'on a épuisé à peu près tout le monde. Donc, s'il y a encore 2-3 questions, on va
prendre. Oui, je voulais dire quelque chose concernant l'eau. Je trouve qu'on fait une erreur monumentale depuis la fin. En 47, la Syrie a mis dans tous les... à brûler parce qu'il n'y avait pas d'eau dans la rivière. À l'heure actuelle, c'est pareil. Comment se fait-il qu'on a obligé dans les communes de baisser les seuils? Pourquoi on a enlevé les seuils, ce qui était fait avec des troncs d'arbres, pour maintenir le lit et pour faire des poches d'eau?
C'est passé le poisson.
La poche d'eau entre Masveau et l'eau, une belle poche d'eau. À la sortie de Masveau, il y a une belle poche d'eau, il y a un seuil. Or, à Cévennes, à Dolène, on les a descendus. Du moment qu'on laisse partir l'eau, le SMLE, sans être vu, on trouve aujourd'hui une grande partie du lit de la Dolère à Cévennes. Tout ce qui était vivant là-dedans m'a foutu. Alors je me suis fait laisser dire par un monsieur, ah mais nous on baisse les seuils. Alors je lui ai répondu, vous allez une fois voir en Autriche, c'est des ingénieurs français, des hydrologues qui ont fait les seuils. Eh bien ces gens-là n'ont pas envie de venir travailler en France parce qu'ils sont contredits dans leur logique. Et aujourd'hui c'est pareil, des choses logiques, il y a certains bureaucrates, des incapables il faut dire, qui sabotent ce que les autres pensent.
Bon,
oui, c'est pas normal que la Dolère est passée sur des kilomètres. Allez, allez.
On a ce que dit monsieur, ça rentrait dans les
moyens de l'économie.
Où, à un moment donné, les actions publiques des communes sur la préservation des ressources naturelles dans l'eau, c'est quand même un point important. Ce qu'il dit là, c'est que si demain, les incendies de l'enfant, hein, le côté catastrophique, c'est pas là, mais demain on l'a parce qu'on n'a pas la ressource en eau suffisante pour protéger la population, c'est quand même les pouvoirs publics qui ont cette responsabilité.
Hein. C'est pour ça qu'on l'expose ce soir, et il y a quand même des gens qui travaillent sur le sage de toute la rivière pour relever ce genre de problème. Hein. Non, on ne les découvre pas aujourd'hui.
Et le sage...
Moi, je le découvre, hein, par contre.
Non, mais vous parlez de la sécurité incendie.
Entre autres, il introduisait le sujet sur la sécurité incendie, mais de manière générale, ça rentre dans le volet de la biodiversité également.
Mais vous croyez
l'évervation des espèces.
Vous croyez que quand je vous parle de la dolette, comme je vous en parle, que c'est pas ma préoccupation. Après, quand vous parlez de sécurité incendie.
Mais je vois dans le volet de la biodiversité, surtout on parle de forêt, on parle de l'espace naturel à préserver à droite à gauche, mais les ouvrages techniques. Les ouvrages techniques liés justement au cours de la dolère, ils ne sont pas du tout.
Mais si, il y a un syndicat, il existe un syndicat d'aménagement du bassin de la dolère qui travaille essentiellement qu'à ça.
D'accord. Ça va, le PLU ne donne pas d'orientation d'action à mener sur.
Non, il y a le sage de la dolère, qui rentre là-dedans, il y a le syndicat qui. Après, on peut, bien sûr, si, on peut donner.
Ouais, c'est une question. Hein.
On peut dire. Le sage, c'est un document qui est supérieur au SCOT, et bien sûr, forcément, supérieur au PLUI. Donc, tout ce que va prédire le sage, le PLUI devra l'intégrer.
Oui, mais à l'échelle locale, ce que dit monsieur là,
le sage, c'est le schéma d'aménagement global de l'eau sur la dolère. Donc c'est un document. D'ailleurs, c'est vrai, sur le sage, on devrait aussi, il y a une communication qui se fait à faire et il y a des questions qui sont sûres. Mais c'est un document.
Il y a une dernière question peut-être de monsieur.
C'est deux, mais une qui était liée à l'eau du coup. Est-ce qu'on va effectivement déléguer la gestion de notre eau potable à une entreprise privée ?
Tant que je serai là, on ne touchera pas à l'eau.
D'accord. Et ma deuxième question, c'est la même qu'avant, en fait. On n'a pas eu l'occasion de parler de politique culturelle. On a parlé de beaucoup de choses qui sont liées aux pluies, mais pas tout à fait. Et j'imaginais que, du coup, la politique culturelle pouvait en faire partie.
Ça peut faire partie des aménagements avec.
On a parlé
d'équipements culturels.
Voilà.
Il y a un équipement.
Dans le sens de projet, de processus, enfin d'une direction.
Moi, je pense que le PLU, il peut poser des questions et après, il ne peut pas tout faire. Donc, s'il y a des dynamiques qui se mettent en place, que le PLU peut activer, bah, c'est bien parce qu'après, on peut les anticiper. Quoi. S'il y a des projets concrets. Peuvent se mettre en place pendant la durée du PLU, c'est l'intérêt. Quoi. Comme un peu ce qu'on a discuté sur la piscicole.
En fait, le PLU, il ne va pas faire de projet culturel.
C'est quand il ne va pas faire le projet cyclable.
Et des besoins de ce projet culturel, par exemple, en termes d'espace. Est-ce qu'il y a des espaces extérieurs à prévoir pour des manifestations ? Est-ce que la Grange Bretelet a assez de stationnement ? Est-ce qu'il faut mettre une bibliothèque ? Ça, oui, le PLU peut en traiter. Mais pas sur la programmation, pas sur le projet culturel en tant que PLU. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou sinon ça veut dire qu'on. Alors une dernière.
Une dernière, mais de portée générale. Je suppose que c'est de portée générale. Par rapport au barrage de Michelac, c'est le doublement de la. On se fait la tête pour faire
la question. Je peux nous répondre. Mais allez au bout de votre question.
La question est la suivante. C'est aujourd'hui dans l'élaboration du PLUI, je ne sais pas si la zone de double barrage fait partie de l'emprise. A priori, ne fait pas. C'est plutôt l'emprise de table. Du coup, c'est dans le scot, normalement. Je n'ai pas parcouru tout le scot encore. Hein, mais est-ce qu'il en est fait mention?
Le Michelbach 2, pour le moment, est. Très loin d'être réalisé, il est même repoussé, le projet n'est plus d'actualité. Parce que, je vais aussi vous expliquer quelque chose, en deux mots, la dolère, à elle toute seule, ne pourra pas continuer d'approvisionner tout ce qu'il faut sur l'agglomération. Et donc on a eu pendant longtemps l'eau de la Harte qui ne répondait plus aux normes de potabilité. Aujourd'hui, avec les efforts des agriculteurs, avec tout ce qui a été fait autour, l'eau de la Harte redevient exploitable. Et donc, on demande aujourd'hui aux Mulhousiens, hein, à la régie mulhousienne, de taper, non seulement de taper maintenant que sur la Dolère, mais de taper aussi dans la Harte et de faire en sorte que ce soit les deux ressources qui viennent subvenir aux besoins mulhousiens. Ce qui fait aujourd'hui, déjà sur le plan des financements pour la Michel par deux, on ne sait pas où trouver l'argent. C'est quelque chose qui va. On n'a pas les moyens financiers aujourd'hui. Et on a cette ressource de la nappe d'Alsace. Hein, cette ressource de la nappe d'Alsace qui redevient exploitable et qu'on peut réinjecter dans les circuits mulhousiens, ce qui vient quand même soulager la Dolère. Parce que là aussi, les élus que nous sommes de la vallée, quand on est dans des réunions, de bassin, on rend quand même attentif aussi. Elle, c'est un peu comme une baignoire, hein. Hein, le lac d'Alfeld d'en haut, et puis quand on bat, ça tire, à un moment donné, tout part par là. Donc il faut quand même pas non plus que la Dolère devienne un petit peu cet endroit où on tire dessus sans y faire attention. Parce que c'est vraiment des problèmes très très.
Nous, on a inquiétude sur Michel Martineau, justement.
Non, il n'y aura pas de. Écoutez, pour l'instant, il n'y a plus de Michel Martineau.
Depuis actuellement, nous faisons déjà de l'eau de l'Arche.
Oui.
Même à une moindre mesure, peut-être, et le faisait depuis un moment. J'ai présenté des soucis, notamment.
Parce que les Mulhousiens, ils ont beau se targuer de vendre, d'avoir de l'eau au robinet, de mettre de l'eau en bouteille sans la traiter, mais c'est quand même nous en haut qui faisons un petit peu tout ce qu'il faut pour que l'eau soit nette en bas. Hein. Et vous savez, je vais finir par. J'ai un projet qui me taraude depuis que j'ai pris des engagements dans notre collectivité. Ma grande idée, c'était de faire en sorte qu'on mette de l'eau en bouteille, là, dans notre vallée, là. Et pas, je ne sais trop. On a la possibilité, notre eau pourrait répondre à des facteurs, à des critères pour qu'on puisse la mettre en bouteille. Et là, j'ai juste le regret de ne pas pouvoir porter un projet comme celui-là. Ça dépasse mes
On peut faire l'eau potable. Remplissez les bouteilles, venez avec une bouteille, vous remplissez l'eau.
Je suis persuadé qu'on peut faire. Et on ferait travailler des gens et on aurait encore une ressource à exploiter. Bon, voilà. Après, ça
sera.
Non,
mais
je
pars bien. C'est cher pour les gens. En haut de toi, là aussi.
Oui, mais on va lire, je suis tellement passionné par
le. Tu peux poser juste un petit truc, pardon. Oui, est-ce que ces feuilles-là, on ne peut pas les remplir à la maison et les poser quelque part après dans l'urne
demain, les urnes sont encore là.
Il y a possibilité de
déposer la mairie.
Ouais, du coup, ouais, pour. Comme ça, avec ce qu'on a pris ce soir, de pouvoir un peu gratter.
C'était la question de monsieur.
Ah, pardon.
Ah oui.
Vous les donnez, ce sera glissé dans les registres, dans chaque registre qui est en mémoire.
Okay.
Vous avez un registre.
Bien, écoutez, moi j'aimerais remercier tous les intervenants de la soirée. Je suis quand même rassuré de voir que les uns et les autres ont la fibre de notre belle vallée. Ça me dit beau mon cœur, les élus que nous sommes, pour continuer à porter cette charge, hein, que nous avons fait le choix de prendre. Donc, il faut aussi que la population soit à nos côtés, parce que je crois qu'il est important. Je suis vraiment heureux ce soir des échanges qu'il y a pu y avoir, passionnés, c'est bien sûr, c'est bien. Mais je pense que les élus qui sont à mes côtés sont. Et demain soir, je pense que ce sera les mêmes retours qu'on aura avec d'autres aspects, hein, d'autres. Mais sachez que cette démarche de PLUI, quand nous l'avons engagée, nous savions bien que ce ne serait pas facile. Nous savions bien que ce ne serait pas facile parce que les intérêts ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Il va falloir faire, il va falloir faire des choix, il va falloir faire des arbitrages à un moment donné. Mais je crois que le jeu en vaut la chandelle. Je crois que notre territoire en vaut la peine. Vous avez vu ce soir, vous avez parlé d'aspects tout à fait exceptionnels de l'endroit dans lequel nous vivons. Donc, je crois que tout ça est fait dans cet intérêt. Donc, merci à vous. Très bonne fin de soirée. Bon retour à tout le monde. N'hésitez pas si demain soir vous voulez venir. C'est pas